Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Hervé Dubois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Michel Luna. Bonjour.
Bonjour.
Michel Luna, vous êtes délégué départemental de l'éducation nationale et vous êtes ici pour nous parler de cette semaine de la laïcité qui va avoir lieu en France du 9 au 13 décembre avec, sur le DIWA, un rendez-vous donné qui sera celui du 13 à 18h à l'avant-poste. Vous nous parlerez un peu de ce qu'il sera à découvrir et avant tout, peut-être, on pourrait demander ce qu'est un délégué départemental pour l'éducation nationale et quelle est sa fonction, donc.
Alors, les délégués départementaux de l'éducation nationale sont des postes à cheval entre une dimension officielle et une dimension purement volontaire. C'est-à-dire que c'est une fonction qui est bénévole, qui est officialisée par une décision de l'inspection d'académie. Le rôle de du délégué est d'une part d'exercer un contrôle sur le fonctionnement, les conditions de fonctionnement des écoles dont il a la charge, et d'autre part de siéger en conseil d'école et de représenter essentiellement le bon fonctionnement unanime de l'école. C'est-à-dire, il y a l'articulation entre les enseignants, l'administration et, bien entendu, les parents d'élèves.
Cela regroupe tous les niveaux scolaires, du primaire jusqu'au secondaire, voire même universitaire ?
Non, ça ne concerne que les écoles maternelles et primaires. Par contre, il peut intervenir aussi dans les écoles privées.
Toujours de même ordre, primaire et maternelle.
Toujours de même ordre, primaire et maternelle. Mais dans les écoles privées, son rôle est un peu limité, puisqu'il ne siège pas en conseil d'école. D'ailleurs, les écoles privées n'ont pas de conseil d'école, mais il intervient plus pour voir si les conditions matérielles sont correctes.
Alors, cette fonction de délégué départemental, comment se met-elle en fonction ? Est-ce que c'est une demande spécifique ou alors vous avez le libre arbitre de rendre visite à un établissement ?
Alors, j'ai le libre arbitre de rendre visite à un établissement, mais il est bien entendu qu'il faut que le chef d'établissement soit disponible, soit informé. Et par contre, j'ai toute possibilité d'aller voir la cantine, d'aller voir les salles, les lieux où les enfants travaillent. Et il est bien entendu que c'est des choses que l'on évite de mettre en œuvre dans la mesure où l'établissement fonctionne bien.
Quelle est cette fonction particulière du délégué départemental ? Quel texte se réfère-t-il aussi pour peut-être donner un avis sur un établissement ?
Alors, le délégué départemental est codifié dans le Code de l'éducation, et plusieurs articles du Code s'y réfèrent. Et nous avons une trame d'avis à rendre, qui reprend bien entendu le suivi démographique de l'école par classe, mais qui reprend aussi le fonctionnement de l'école et les conditions matérielles, qu'il s'agisse des salles ou des lieux communs, et aussi bien les sanitaires que les bibliothèques. Voilà.
Et par rapport à cette semaine de la laïcité, comment s'articule donc vous en tant que délégué départemental et cette organisation ? Est-ce que c'est aussi pour vous une tâche de veiller à cette laïcité au sein d'établissements scolaires, par exemple, publics ?
Alors, la laïcité fait partie des missions intrinsèques des délégués départementaux de l'éducation nationale. Par contre, tous ne la prennent pas à cœur ou n'en prennent pas la mesure à la même échelle. Pour ma part, depuis que je suis sur DI, c'est quelque chose que j'ai pris à cœur. Et ainsi, la première année, nous avons planté un arbre de la laïcité avec Madame la maire. Et puis, nous avons eu une conférence avec Jacques Planchon et avec Christian Rey sur la laïcité et la mort, où nous avons fait intervenir Bernard Ravé, qui avait sorti un livre sur le professeur de collège, imam de la République. Et donc, il est intervenu à l'époque dans le SCDD. L'année dernière, nous avons eu aussi une projection d'un film sur sur les débats et la promulgation de la loi de 1905, donc la fameuse loi du 9 décembre sur la liberté de conscience. Et à cette occasion, nous avons accueilli notamment Madame la maire. Voilà. Et cette année, nous prévoyons de recevoir Gérard Boucher, qui est un philosophe, qui a été enseignant à l'École normale et à l'UFM, qui est cofondateur de l'Observatoire Dromardèche de la laïcité et qui a écrit différents ouvrages autour de la thématique.
On reviendra sur cette présence de Monsieur Boucher donc dans l'émission. Je voulais revenir sur cette notion de laïcité à l'adresse des enfants. Quelle conscience en ont-ils de cette notion? Est-ce que vous êtes là aussi pour leur ouvrir les yeux sur cet aspect?
Alors, je n'ai aucun rôle éducatif ni d'enseignement. J'ai bien dit, j'interviens sur les conditions d'enseignement, mais absolument pas sur le choix pédagogique des enseignants ou autres. Par contre, la laïcité nous concerne tous. Elle nous concerne tous puisque elle garantit la neutralité de l'État. Elle vise à assurer la liberté de conscience de chacun et elle les repose sur la séparation de l'Église, des églises et de l'État. Et donc, son article 1 prévoit que l'État ne reconnaît et ne salarie aucun culte, c'est-à-dire que tous les cultes sont égaux. Et deuxièmement, l'article 2 dit que l'exercice des cultes est libre. Donc, à partir de là, on a défini une laïcité que aujourd'hui beaucoup veulent interpréter à leur sauce.
Cette notion de laïcité semble plutôt confuse pour beaucoup, hein, puisque vous semblez le dire. Est-ce que comment opérez-vous donc cette en quelque sorte une certaine pédagogie auprès d'un public?
Bien, cette pédagogie, je suis pas chargé de.
Non, je sais bien, mais au niveau des professionnels, vous avez bien un rapport avec des professeurs ou des instituteurs dans votre activité. Est-ce que vous êtes, il y a des conversations entre vous ou peut-être des conseils aussi à donner? Je ne sais pas comment ça se passe.
Alors, je n'ai pas de conseils à donner aux enseignants qui ont d'une part beaucoup, beaucoup à travailler et à se mettre à. Tous les ans, ils doivent encore revoir leur programme et à prendre en compte les exigences de l'éducation nationale. Mais par contre, je fais partie de groupes de réflexion, groupes de travail sur la laïcité. Et pour moi, personnellement, je dis bien personnellement, la laïcité, c'est une liberté individuelle qui repose sur une maturation autonome de chacun. C'est-à-dire que ça repose en aucun cas sur un quelconque dogme.
Le seul dogme, entre guillemets, autorisé à l'éducation nationale, quel est-il?
Le seul dogme autorisé à l'éducation nationale, Mais pour moi, il n'y en a pas de dogme autorisé. Par contre, l'objectif de l'éducation nationale est de permettre à chaque enfant de s'épanouir et de, disons, d'avancer dans son émancipation propre.
Il y a ce rendez-vous donc, qui aura lieu ce 13 décembre à 18h à l'avant-poste, donc rue Notre-Dame à Die. Et pour cela, vous invitez M. Gérard Boucher, comme vous l'aviez présenté auparavant, et qui propose donc un texte qui s'intitule « Une course d'obstacles vers l'émancipation ». Pour parler de la laïcité. Pour vous, quelle est cette nécessité de rappeler sans cesse cette notion de laïcité ? Est-ce que vous pensez qu'elle est sans cesse mise en danger ?
Elle est mise en danger par les gens qui veulent en déformer le sens. Elle est mise en danger par les gens qui veulent la rayer de nos textes, de la Constitution, même si elle n'y figure pas en tant que telle. Et voilà pourquoi elle est en danger. La laïcité, on a vu que c'était des libertés, c'était des cadres qui permettaient à chacun de s'avancer et de se construire. Alors, par contre, effectivement, dans les écoles, il n'y a pas de présence de religion. Dans les agents, enfin, chez les agents publics, il n'y a pas de présence de religion affichée. Parce que ça fait partie de ce que l'on appelle l'état neutre. Et autrement, pour les enfants, l'objectif qu'il y a lorsque l'on demande à ce qu'il n'y ait pas de religion affichée dans l'école, c'est aussi de ne pas créer de dynamique, de ne pas créer de sentiment d'appartenance ou de mouvement grégaire, de manière à ce que chacun puisse se construire individuellement, comme je l'ai évoqué.
L'idéal, en fait, c'est que la religion puisse être un sujet d'intérêt pour des adultes, mais en deçà, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence, peut-il être exempté de cette notion de religion ? Est-ce que ça serait un idéal ?
L'enfant est exempté de religion dans le cadre scolaire.
Oui.
Après, dans le cadre familial, il vit ce que sa famille veut lui faire vivre. Ce qui est certain, c'est que le gap, la différence qu'il y a entre le cadre scolaire et le cadre familial, amènera l'enfant à réfléchir. Et c'est là où il se construira aussi.
Pour l'école privée, c'est une autre chose, puisque certaines sont justement d'ordre chrétien, parfois, ou autre. Quel est votre positionnement alors entre cet aspect de laïcité et une école privée ?
Eh bien, en tant que représentant de l'État, je n'ai pas à avoir de positionnement. Par contre, je dois vérifier que l'école fonctionne avec des conditions de sécurité qui soient garanties. Je dois vérifier à ce que les contrôles soient assurés. Je dois vérifier un certain nombre de choses que je n'ai pas toujours constatées dans les écoles que j'ai visitées. Je parle surtout des écoles privées.
Et par rapport à cette conférence de Gérard Boucher, pour vous, quel a été le facteur qui vous a suscité à l'inviter à cette journée du 13 décembre ?
Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter Gérard Boucher plusieurs fois. Et j'ai toujours trouvé que c'était un homme qui était droit, rigoureux et en même temps qui portait avec passion ce message de laïcité. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est que sa rigueur et sa droiture ne laissent pas transparaître une quelconque opinion personnelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire partager. Il me semble que c'était un très bon exemple de neutralité, tel que nous attendons qu'il soit enseigné aux élèves, enfin, aux enseignants. Hein, je rappelle qu'il enseignait à l'école normale et à l'UFM. Mais aussi, nous souhaitons que ce soit cette neutralité qui passe dans les écoles.
Il y a cette, comme vous disiez, donc, une certaine réserve hein, dans le propos, de manière à ne pas amener de passion personnelle sur cette notion de laïcité. C'est un aspect que vous-même utilisez peut-être également.
Je dirais que mon arrière-grand-père était pasteur. Et puis il a perdu la foi. Et il était ami avec un législateur qui a été le rapporteur de la loi de 1905. Et sa fille, qui était ma grand-mère, m'a enseigné les légendes chrétiennes et juives, puisque pasteur, on apprend un petit peu les deux. Mais elle me l'a enseigné dans un ouvrage qui était purement laïque. Ça s'appelait « Les légendes chrétiennes et juives ». Et derrière, mes parents ont continué cet héritage. Donc pour moi, je suis pénétré de l'idée laïque, ce qui n'empêche pas qu'il y a des notions de culture religieuse. J'adore l'art, j'adore aller en Italie, j'adore toute l'époque, les œuvres qui ont été faites par des Titiens, mais aussi des Michel-Ange et autres décorateurs de tombeaux, de papes ou de chapelles. Mais je le remets dans l'illustration que peut avoir n'importe quel livre de contes qui est illustré.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5,
101.7,
FM.
Le titre de cette conférence, laïcité, une course d'obstacles vers l'émancipation. Vous en aviez parlé justement de cette notion d'émancipation pour l'enfant au sein d'un établissement scolaire, d'être aussi à la découverte de tout ce qui peut être différent également, hein, puisqu'il n'y a pas qu'un seul enfant, il y a une multitude avec leur culture familiale également. Tout cela se brasse et malgré tout, il y a cette notion d'émancipation, ça va permettre peut-être aussi d'aller à la découverte de nouveautés, de nouvelles pensées.
Et tout à fait. Mais il n'y a pas que dans l'école ou à la maison qu'on est confronté à l'étrange, à la télévision, bien entendu. Il y a des émissions, il y a des reportages absolument remarquables. Et puis dans la famille. Moi, dans la famille, je me rappelle une personne qui a eu une grande influence quand j'étais adolescent, qui était... Il était champion du 110 mètres haies. Et il est parti aller travailler sa respiration chez des maîtres de yogi. Et du coup, il n'a pas participé aux Jeux Olympiques alors qu'il était présélectionné. Mais il est rentré complètement entiché de son yoga et de l'hindouisme. Et il a influé sur moi encore aujourd'hui. Je ne prends pas de café, j'évite tous les produits type à base d'alcool ou autre. Et c'est vraiment de l'influence religieuse à l'origine, mais qui m'a été transmise. Donc c'est pour dire, nous sommes tous sous influence. Et ce qui est important, c'est d'en prendre ce que l'on veut et d'y laisser ce que l'on veut.
Quels sont ces obstacles mentionnés dans ce titre ?
Les obstacles qui sont mentionnés dans son titre, je vous encourage à venir aller écouter la conférence et vous en aurez un inventaire beaucoup plus exhaustif que ce que je vais évoquer. Mais pour moi, et après en avoir discuté ou avoir lu certains ouvrages de Gérard Boucher, il y a d'abord des obstacles qui sont liés à l'idée de l'école républicaine. L'idée de l'école républicaine, c'est considérer que l'école publique n'est ni une dette, ni un bienfait pour la nation, mais c'est un besoin. C'est croire en la perfectibilité de l'homme et c'est exercer une rationalité critique. Rien que là, on identifie une série d'obstacles qui ne sont pas évidents aujourd'hui à surmonter. Alors, dans l'un de ses ouvrages, il évoque cinq références. Talleyrand, qui a évoqué l'ignorance. Ensuite, il a évoqué Condorcet, qui est pour l'enseignement public. Il a évoqué Quinet, qui est pour un instituteur laïque. Il a évoqué Jaurès, qui a été pour la dimension sociale. Et enfin, il a évoqué Alain, qui a évoqué le gap qu'il y a entre la culture scolaire et la culture familiale. Et tout ça, il en arrive à dire que l'école est à reconstruire et qu'elle est actuellement déboussolée et que la démocratie doit lutter contre la démagogie.
Alors, ça résume bien un peu l'ambiance actuelle, hein, avec ces ministres qui changent régulièrement et souvent, avec des réformes qui n'aboutissent jamais, en fait. Pour vous, c'est un contexte dangereux pour l'école, justement, de désolidariser le public avec l'éducation nationale, mais aussi entre enseignants, justement, avec ces réformes qui n'aboutissent pas et qui amènent forcément une ambiance plutôt délétère, je dirais.
Je dirais que l'éducation nationale, nous avons vu que c'est un besoin et ce n'est pas un outil politique. Qu'il y ait besoin de réformer un certain nombre de choses, c'est certain. Qu'il y ait besoin d'observer ce qui s'y passe et de tirer des conclusions, c'est évident. Mais on ne tire pas des conclusions en un ou en cinq ans d'exercice. Il faut beaucoup plus de temps. Il faut de la persistance dans un travail. Lorsque l'on voit actuellement que chaque ministre attend d'avoir sa signature, d'avoir une loi qui porte son nom, que ce soit voulu ou non, que ce soit conseillé ou voulu par lui-même, mais toujours est-il qu'il y a un malaise complet. Et cette instrumentalisation, tant d'ailleurs des lois sur l'éducation que sur d'autres choses, n'est pas bonne pour l'équilibre de la société.
On peut parler aussi de ce que Gérard Boucher a exercé comme activité au sein de cette notion de l'école.
Bien, Gérard Boucher formait les enseignants. Voilà, il était formateur d'enseignants et je ne l'ai pas connu à ce moment-là. Je suis désolé, mais j'ai démissionné de l'école normale après le bac, je suis rentré en seconde et donc je ne l'ai pas connu. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est certain, j'ai connu des enseignants qui l'ont eu et qui en gardent un souvenir vraiment intéressé et qui vont venir d'ailleurs.
Et j'imagine que cela a fait écho en vous aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à être délégué départemental de l'éducation nationale ?
Mon père l'a été aussi. Et pourquoi délégué départemental de l'éducation nationale ? J'ai fini ma carrière au rectorat de Grenoble. Mais je n'étais pas fonctionnaire de l'éducation nationale, j'étais payé, j'étais fonctionnaire du ministère du Développement Durable, et avant ministère de l'Équipement. Et je me suis occupé de construire et de réaliser et de financer des écoles, non pas des écoles primaire ou secondaire, mais du bâti universitaire, puisque les écoles primaires sont passées au sein des écoles des mairies, les écoles secondaires pour les collèges sont gérées par les départements et les lycées sont gérés par les régions. Donc, je me suis occupé de bâtiments d'enseignement supérieur sur l'académie, donc aussi bien sur Valence que Annecy, Chambéry ou Grenoble. Et ça m'a amené un certain regard, une certaine compétence dans le domaine. Or, c'est vraiment un des bouts de travail des missions du DDEN qui est importante. La deuxième raison, la laïcité. Vous avez compris que je l'avais vissée dans les tripes depuis plusieurs générations. Donc, ça a été une raison. Et la troisième raison, c'est parce que je connaissais un petit peu le milieu.
Pour cette soirée du 13 décembre à 18h, quel public espérez-vous voir à cette conférence ?
Eh bien, écoutez, je pense que si on veut construire quelque chose ensemble, il faut qu'il y ait un large public. Donc, des parents d'élèves, des élèves intéressés, des enseignants, des non-enseignants, des commerçants, des gens de la presse, toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus, ont envie de discuter, de remettre en cause certaines choses, y compris la parole de l'orateur, seront bienvenues.
Il y a en quelque sorte une activité pour vous-même, c'est celle d'être un regard de la laïcité sur l'éducation nationale. Est-ce que vous y laissez aussi les oreilles ?
Eh bien, écoutez, votre question est tellement pertinente que j'en suis complètement muet. Est-ce que je laisse les oreilles traîner dans l'éducation nationale ?
C'est-à-dire, est-ce que vous opérez des prises de contact ou une permanence, en quelque sorte, dans certains établissements pour peut-être réceptionner la parole ?
Non. Non, non. Je ne réceptionne pas la parole au sein d'établissements sur des aspects qui sont quand même, qui relèvent de la pédagogie. Par contre, je suis prêt à en parler avec qui de droit, qu'il s'agisse des parents d'élèves, des enseignants ou autres, s'ils le demandent. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire.
On peut parler également de partenariat hein, pour cette semaine. On peut parler donc au niveau local. Qu'est-ce qu'il y a comme partenaire en dehors de...
Alors, au niveau local, nous avons la Fédération des œuvres laïques qui est représentée par Claude Verret, que vous connaissez par ailleurs aussi, et nous-mêmes. Et puis, sachant que j'avais proposé aussi à la LDH de se joindre, et puis elle a décliné la proposition. Voilà. Autrement, au niveau départemental, il y en a quand même beaucoup plus. On a toujours la Fédération des œuvres laïques qui est très présente, mais on a l'Union des familles laïques et on a d'autres. Et là, la LDH est aussi participante.
J'invite les auditeurs d'ailleurs à découvrir l'activité de cette délégation départementale. Est-ce qu'elle a une vitrine sur Internet ou un moyen d'être jointe sur Internet ?
Alors, la délégation départementale de l'éducation nationale peut être jointe. D'abord, elle a une vitrine qui est... je pense que le mieux, c'est de le regarder. Et autrement, on peut joindre son président, qui est Gabriel Potier. Et je vais vous donner son courriel. C'est DDEN...
Alors, D...
DEN tiré Union 26... @orange.fr. Et sachant que l'on recrute des délégués sur toute l'aire d'émissions de Radio Diwa, à part sur Minglon, sur Die, sur Châtillon et sur Lucandiwa. Mais à Solor, nous n'avons personne. Solor, l'école qui va être inaugurée dans quelques mois, mais on n'en a pas non plus sur Montmort, on n'en a pas sur Saillant, on n'en a pas sur la plupart des autres écoles, on n'en a pas. Ah si, on en a un qui est aussi sur Saint-Julien-en-Quin. Voilà.
Délégué des départementales de l'éducation nationale, donc vous agissez vous-même au sein du primaire. Quels sont les outils qui vous permettent de remédier peut-être à une situation?
Eh bien, nous sommes à l'articulation entre la mairie, qui gère les crédits, les enseignants et les parents d'élèves. Et donc, les outils, je dirais qu'on n'a que notre présence, notre caution morale, notre parole, et puis il y a aussi notre capacité de conviction, d'être convaincu et de convaincre.
Voilà, ça c'est un aspect consultatif en quelque sorte de votre statut. Est-ce qu'il est peut-être aussi agissant?
Alors, il faut savoir que nous votons toutes les résolutions du conseil d'école, puisque nous avons un pouvoir de vote. Et d'autre part, nous sommes en relation avec les IEN, donc les inspecteurs de l'éducation nationale. Donc nous pouvons remonter toutes les informations, voire les saisir. Et bien entendu, nous sommes organisés au niveau départemental, ce qui nous permet aussi de poser et d'avoir des échanges.
Au-delà de cette date du 13 décembre, est-ce que d'autres rendez-vous sont régulièrement donnés avec cette notion de laïcité à l'adresse du public?
Alors actuellement, non. Actuellement, non. Je dis quand même, c'est un certain travail, c'est une certaine disponibilité. Et j'aimerais bien que nous arrivions à créer un groupe d'IWA autour de la laïcité. Il y a déjà une adresse qui a été créée, mais pour l'instant, elle ne fonctionne pas couramment. Voilà.
Eh bien, Michel Luna, merci beaucoup d'être venu sur RDIWA pour nous parler donc de cette semaine de la laïcité qui se déroule en France du 9 au 13 décembre 2024 et particulièrement à Die avec cette conférence qui sera donnée par Monsieur Gérard Boucher, l'avant-poste. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, Monsieur Yves.
Au revoir.
Au revoir.
The snakes have Come on, silence.